19h04 aux amateurs de sport. Amorçons tout de suite la prochaine heure en compagnie de Philippe Quentin. Bonsoir, Philippe.
Salut, Mario.
Alors, un piège en vue, possiblement, pour le Canadien de Montréal demain contre l'Avalanche du Colorado, surtout avec la séquence vidéo qui a fait le tour de tous les bulletins de sport ad nauseam entre Jared Bednar et Nathan McKinnon. Je pense que tu as raison de t'attendre à un bel effort du jeune homme des Maritimes.
Oui, oui, tout à fait. C'est peut-être la pire des situations pour le Canadien. Déjà affronter une équipe qui est extrêmement talentueuse, comme l'Avalanche du Colorado, mais qui connaît des ennuis. Donc, c'est sûr que les joueurs ont hâte de mettre cette série très difficile derrière eux. Mais là arrive l'incident McKinnon-Bodnar. Et ça, dans une équipe, ça peut causer un électrochoc. On a vu aujourd'hui les réactions de McKinnon qui a pris tout le blâme, qui a dit « bon, je me suis mal conduit », etc. C'est très bien. Mais là, à partir de maintenant, lui, il sent là, qu'il, la meilleure façon pour lui de retrouver le moral puis de faire oublier l'incident à son entraîneur, à ses coéquipiers, c'est de connaître un gros match. Et quoi de mieux que de le connaître à Montréal, bien sûr, devant cet auditoire du samedi soir. Alors, j'ai l'impression que McKinnon, demain soir, là, va arriver le couteau entre les dents sur la patinoire. Et ça, pour le Canadien, c'est assez dangereux parce qu'on a vu une équipe plutôt mollassonne hier soir à Saint-Louis. Et là, je trouve qu'on revient un petit peu aux vraiment incertitudes qu'on avait en début de saison. Hein, Mario, quel genre d'équipe est le Canadien?
Je les partage, Philippe. Je n'aime pas ce que je vois depuis le retour, depuis le nouvel an, finalement.
Ben tout à fait, parce que ça avait tellement bien fini avec le voyage de 6 matchs. Hein. Tout le monde pensait que c'était le signe d'une deuxième moitié de saison extraordinaire. Puis c'est vrai que ça a été encourageant. Qui aurait pensé que le Canadien remporterait 4 victoires dans ce voyage qui s'annonçait peut-être catastrophique, là. Mais là, c'est une fois que ce voyage-là a été magnifiquement réussi, l'équipe n'a pas été capable d'enchaîner avec un succès continu. Non. Et là, ben, il y a une séquence de matchs à domicile qui s'en vient plus tard au mois de janvier. Donc, ce sera une belle occasion avec des clubs qui sont pas parmi les puissances de la Ligue nationale qui vont s'arrêter au Centre Bell. Mais là, il y a un défi, là, à plus court terme. Et là, une équipe comme l'Avalanche, quand arrive un incident comme celui-là, tu sais, ça peut ou bien vraiment faire mal à une équipe, ça peut déchirer si l'équipe se divise en deux camps. Mais là, ça ne semble pas être le cas du tout parce que McKinnon a admis ses torts, Bodnar a passé l'éponge, le capitaine Landeskog a clairement dit à McKinnon, « Regarde, là, t'as raté une belle occasion d'avoir une meilleure maîtrise de soi. »
Et je t'invite à écouter Daniel Brière, tout juste après toi, qui a bien connu Landeskog et McKinnon et qui va nous parler de comment que Landeskog l'a impressionné dès qu'il l'a vu. Là, il avait 19 ans.
Oui, on voit ça hein, tout de suite. Ils l'ont nommé capitaine très jeune, d'ailleurs. Puis tu vois sa réaction aussi dans cette fameuse séquence là, quand il voit que McKinnon est en train de perdre le contrôle de lui-même,
il
met la main là, il dit regarde, arrête là, il y a quelque chose qui fonctionne pas et donc c'est vraiment je pense un solide capitaine, mais donc demain moi je dis le Canadien de toute façon doit se méfier de McKinnon, mais je te dirais encore plus demain.
Et le Canadien doit accumuler des victoires à domicile parce que le Canadien joue pour 500 à la maison. Ce n'est pas satisfaisant. C'est un signe de manque possible de maturité, au dire du directeur général Marc Bergevin en début de semaine sur nos ondes. Et pour réitérer ou renchérir ce que tu dis, tu sais, je suis un peu inquiet quand même parce que là, il y a des signes, un essoufflement de l'attaque. Et quand tu vois une équipe aussi talentueuse, par exemple, que l'Avalanche du Colorado connaît des déboires comme ils en ont connu dans leur dernier séquence de match avec seulement 2 victoires lors des 10 derniers, ben, tu te dis que ça peut arriver à un club comme le Canadien. Ouais. Ça peut arriver à n'importe qui, dans le fond. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Là.
Ça peut arriver, puis ça peut être plus difficile que pour l'Avalanche de s'en sortir parce que tu n'as pas la même qualité de joueur. Peut-être qu'un jour que Kotkaniemi sera un McKinnon, mais tu sais, à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de ce joueur-là, de ce type de joueur-là chez le Canadien. Alors, quand tu regardes le classement, c'est sûr que c'est inquiétant un peu. Le Canadien, à l'heure actuelle, est à l'extérieur du portrait des séries éliminatoires et les deux clubs qui le précèdent là, dans la course au 4e as, les Islanders et les Sabres de Buffalo ont respectivement 3 et 2 matchs en main.
Alors, c'est Caroline aussi derrière a des matchs en main.
Oui, tout à fait. On a 2 pour les Hurricanes. Alors donc, gros défi demain pour le Canadien. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus.
NFL, 4 gros matchs. On se régale à toutes les fois, Philippe. Et je pense que toi aussi, tu seras d'avis que un des incontournables, ils sont tous incontournables, là, mais le match entre les Eagles et les Saints dimanche soir, ça va être quelque chose. Parce qu'on est tous curieux de voir, même si clairement sur papier, c'est une moins bonne équipe que les Saints, les Eagles et Nick Foles peuvent-ils poursuivre?
Ouais, comment peux-tu ne pas être impressionné par Nick Foles? Ce qu'il a accompli l'an dernier quand il a remplacé à pied élevé Carson Wentz, qui était la nouvelle vedette des Eagles de Philadelphie, le gars qui les amènera enfin à la terre promise, l'équipe a une saison extraordinaire, bang, blessure au genou en décembre. novembre et Foles le remplace. Tout le monde pense que la saison des Eagles est à peu près finie. Ben non, il gagne le Super Bowl puis il est choisi le joueur le plus utile à son équipe. Là, Wentz revient cette saison, en cours de saison, arrive le mois de décembre, une autre blessure cette fois au dos, encore une fois en dehors pour le reste de la saison. Foles revient, l'équipe est à toute fin et pratique, exclue des séries éliminatoires. Ça prenait, il fallait qu'ils gagnent leur match puis ça prenait un peu. Et ben ça se passe comme ça avec Foles. Et là, ils s'en vont affronter les Bears à Chicago le week-end dernier. Les Bears, moi, je les avais choisis avant le début des séries pour remporter le Super Bowl parce que je trouve qu'ils ont une défense extraordinaire.
C'est bon.
Et là, Foles arrive et encore une fois, c'est peut-être pas lui qui a été la plus grande vedette du match, mais on dirait que ce gars-là trouve le moyen. Bon, on dirait, il trouve le moyen de faire gagner son équipe. Et là, donc, ils s'en vont dimanche après-midi en Nouvelle-Orléans contre Drew Brees, jouer au Superdome. On le sait, c'est très, très difficile. Tous les adversaires connaissent des ennuis là-bas. Mais avec Foles qui se trouve de nouveau dans cette espèce de zone de confort et de confiance en lui absolument extraordinaire, moi, je ne suis pas prêt à parier tout de suite contre les chances des Eagles. Que ce gars-là fait vraiment des miracles. Et je lisais des papiers sur lui cette semaine, Mario. Réalises-tu qu'en 2016, quand il a été remercié des Cards, des Rams de Saint-Louis...
Il a voulu se retirer.
Il a voulu se retirer. En fait, sa décision était prise. Sports Illustrated raconte qu'il est à la pêche, puis il a déjà envoyé en juillet, là, puis il réfléchit à ça, puis il a déjà envoyé des textos à sa famille, puis à ses plus proches, en disant, bon, ben écoutez, c'est à peu près terminé, là, moi, j'en ai assez. Puis il allait se recycler un peu dans le business de son père. Parce que dans cet article-là, on nous apprend que son père, c'est un multimillionnaire. Il a fait fortune dans la restauration aux États-Unis. Il a vendu 2 chaînes de restaurants pour des dizaines de millions de dollars.
Ah oui?
Alors lui, il allait travailler un peu avec son père quand tout à coup, le téléphone sonne. Puis c'est Andy Reid, qui était son, parce qu'il avait déjà joué à Philadelphie une première fois, qui avait été son entraîneur à Philadelphie, qui était maintenant à Kansas City, comme on sait, qui l'appelle, qui disait, hey, voudrais-tu venir comme carrière réserviste avec les Chiefs? Il était allé là un an, puis après, il a signé un nouveau contrat, un autre contrat avec les Eagles. Et c'est comme ça qu'il s'est ramassé là. De retour à Philadelphie. Mais tu sais, tout ce parcours-là, c'est un film.
Ben,
c'est un film.
Tu m'enlèves les mots de la bouche. C'était ça ma réplique après.
C'est ça.
C'est un film, ça, Philippe.
Et là, si le film se poursuit avec un scénario magique dimanche soir, vois-tu ça? Là,
c'est, là, c'est une série.
Oui, c'est une série. Ouais, c'est ça. Exactement.
Netflix, ça va être.
Oui, c'est ça. On va voir ça sur Netflix à l'automne prochain. Mais je trouve que c'est vraiment une histoire sensationnelle, une histoire merveilleuse dans le monde du sport. Alors, c'est bizarre. Hein, parce que Philadelphie-Nouvelle-Orléans, des 4 matchs, c'est celui où l'écart de points est le plus prononcé là, par les preneurs au livre, c'est-à-dire que les Saints sont les plus grands favoris des 4 matchs par 8 points.
En tout cas,
ça a un gros avantage aux Saints. Puis pourtant, moi, c'est probablement le match qui m'intéresse le plus, même si, bien sûr, Indianapolis-Kansas City, Dallas contre les Rams, et puis bien sûr, en Nouvelle-Angleterre, les Chargers qui s'en vont là-bas. La bataille des plus vieux corps arrière, Philip Rivers et Tom Brady, ça va être pas mal bon aussi. Alors, tout un week-end de football.
Les gens qui te connaissent savent qu'en plus du football, de savoir que c'est le retour du tennis de haut calibre, je sais pas si dans la famille, autour de toi, on est en deuil pour le prochain week-end, Philippe, parce que tu vas être très occupé à regarder du sport. Parce que là, c'est l'Open d'Australie qui repart. Puis une des questions, avant de parler de l'Open comme tel, j'ai hâte de voir quel genre de saison va connaître Denis Shapovalov sans Martin Laurendeau.
Bon, ça, pour moi, c'est un peu bizarre, tu sais, cette décision de Shapovalov qui a lui-même choisi Laurendeau comme entraîneur quand il était encore 200e au monde. Et là, il travaille avec Martin Laurendeau. Il y a ce fameux tournoi extraordinaire à Montréal, il y a quoi, deux ans maintenant, qui vraiment le propulse là, sur la scène du tennis international comme une nouvelle vedette. Il continue de progresser. Il termine l'année parmi les 50 meilleurs au monde. Et tu sais, je parlais avec Louis Borfiga récemment, un peu avant Noël, puis tu sais, il me disait au début de l'année 2018, là, si Shapovalov, si simplement en 2018, il avait réussi à maintenir sa 50e place au classement mondial, ça aurait été extraordinaire. Parce que là, tous ses adversaires l'attendent là, et puis ils profitent plus de l'effet de surprise. Mais non seulement il a maintenu sa place dans le top 50, il a atteint jusqu'à la 27e place. Et beaucoup en travaillant avec Laurendeau. Bon, là, il décide que, comme bien des joueurs, ça lui prend une nouvelle direction pour atteindre les étapes qu'il n'a pas atteint encore. Puis il choisit un entraîneur canadien, Rob Stickley, qui semble un gars très, très solide. Mais il en reste pas moins que j'ai hâte de voir quel sera l'impact de ce changement-là. On le sait, des changements. C'est peut-être aussi parce qu'on est ébranlés, nous autres, comme analystes amateurs de tennis au Québec, par les nombreux changements d'entraîneurs d'Eugénie Bouchard. Tu sais, qui ont laissé un goût amer. C'était toujours l'entraîneur. Ça faisait jamais un autre, puis un autre. Tu sais, tout à coup, tu viens que tu te dis, coudonc, il y a un peu de stabilité, là, ça ferait vraiment du bien. Et là, moi, c'est un peu mon inquiétude pour Shapovalov. Est-ce qu'il va rester avec cette clé un long moment ou, tu sais, on commence aussi une éventuelle ronde des entraîneurs? Soit donc que ce ne soit pas le cas. Je ne pense pas que c'est une très riche idée. Mais à mon avis, cela dit, Mario, il a tellement progressé rapidement sous l'égide de Martin Laurendeau que je m'explique encore mal la décision d'aller dans une autre direction.
Ouais, on est sans réponse pour l'instant et je m'en voudrais de ne pas te permettre de nous parler de la nouvelle sensation du tennis féminin, du renfort pour Eugénie Bouchard et les autres.
Oui. Écoute, ça fait en sorte que hier soir, là, j'étais sur Internet à vérifier l'allure de son match jusqu'à à peu près minuit, voir si elle réussirait à se qualifier pour le tableau principal des internationaux d'Australie. Oui, c'est ça, Bianca Andreescu. Alors, elle a réussi, elle a gagné très facilement. En fait, son adversaire s'est retiré du match au deuxième set, mais le match était à toute fin utile déjà joué. Mais moi, ce que je pense là, de Bianca Andreescu, 18 ans, sais-tu à qui ça va faire beaucoup de bien, à mon avis, la montée en grade de cette jeune athlète-là?
Ben, je te vois venir un peu. Je pense que tu penses à Eugénie. Hein?
Oui, c'est à Eugénie Bouchard. Parce que qu'on le veuille ou pas, Eugénie Bouchard domine la scène du tennis canadien féminin là, depuis plusieurs années, depuis 2014. Et là, arrive quelqu'un qui va se battre avec elle pour le titre de meilleure joueuse canadienne. Puis qu'on le veuille ou non, ça a un impact, ça. T'aimes ça être le meilleur ou la meilleure joueur ou joueuse de ton pays, c'est important. Alors moi, je pense que c'est une motivation additionnelle pour Eugénie Bouchard. Alors je dis bravo, je trouve que c'est le fun, ça va apporter une saine émulation entre les deux joueuses et de voir que Bianca Andreescu atteint le tableau principal. D'ailleurs, la première ronde est clairement à sa portée dans ce tournoi-là, parce qu'elle joue contre la 199e au monde, une joueuse invitée. Alors, elle pourrait très bien atteindre la deuxième ronde. Mais c'est sûr que, dans l'ensemble, Mario, pour tous les joueurs canadiens, je pense à Bianca Andreescu, Eugénie Bouchard, Denis Shapovalov et Milos Raonic, le tirage pour l'Open d'Australie n'a pas été très, 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 très avantageux. Eugénie Bouchard pourrait, si elle remporte la première ronde, pourrait affronter Serena Williams en deuxième ronde. Ça sera, puis même la première ronde pour elle contre la Chinoise Xu Yipeng, ça ne sera pas nécessairement facile. Shapovalov aussi, dès la troisième ronde, pour affronter Djokovic. Raonic, ça commence avec Kyrgios en Australie. Alors donc, ça va être assez difficile pour les Canadiens, mais on ne sait jamais. On a déjà vu des miracles en 2014, des performances exceptionnelles avec Eugénie Bouchard, alors qui sait ce que les prochains jours nous réservent.
Philippe, en tout cas, on sait que les prochains jours nous réservent beaucoup de moments devant nos téléviseurs. Qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas passer à côté de ça. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine et à la semaine prochaine.
Bon week-end, Mario.
Toi aussi. Donc, c'était Philippe Quentin. Et au retour, justement, je l'évoquais tout à l'heure, Daniel Brière qui est avec nous. Il va nous parler de son ancien coéquipier Nathan MacKinnon versus Jared Bednar. À tout de suite.